prions, chers amis. Oui, Seigneur, nous voulons compter tous tes bienfaits envers nous. Nous voulons témoigner de cela par notre façon de gérer notre argent. Donc, donne-nous à y réfléchir ce matin à la lumière de ta parole. Sois avec nous par ton esprit. Construis-nous, façonne-nous à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te prions cela pour sa gloire. Amen. Amen. Bon, effectivement, aujourd'hui, chers amis, veuillez vous asseoir ceux qui sont ici avec moi. Nous sommes dans une nouvelle série après Pâques. Ce serait une petite série de trois prédications plutôt thématiques où nous allons traiter la relation entre Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ et un aspect de notre vie de disciple. On va voir les deux autres domaines que nous allons traiter la semaine prochaine, la semaine suivante. On est encore en train juste de définir exactement ce que nous allons traiter ensemble. Mais aujourd'hui, nous allons traiter cette question de Jésus est mon portefeuille, ou mes richesses, si vous voulez bien. Et au lieu de donc prêcher un seul texte, nous avons lu 1 Timothée chapitre 6 il y a quelques instants, ce qui est normalement notre habitude dans l'Église de prêcher un texte. Nous allons rassembler quelques textes bibliques, quelques données bibliques pour expliquer dans l'ensemble l'enseignement de Jésus-Christ sur ce sujet de richesse. Nous venons, il y a une semaine, de déclarer, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est Seigneur suite à sa résurrection. Il y avait un voisin chez nous qui a regardé l'émission que nous avons faite samedi, juste avant le dimanche de Pâques, sur la résurrection. Jésus est-il vraiment ressuscité? Elle m'avait dit à quel point elle avait apprécié d'assister. Ensuite, elle m'a dit, mais vous savez, cela ne me concerne pas parce que je suis athée. Et j'ai voulu lui dire, mais elle était partie tout de suite après, j'ai voulu lui dire, mais si, si, madame, bien sûr, cela vous concerne. Car justement, Jésus-Christ est vivant. Il est Seigneur, que vous le veuillez ou pas. Juste parce que vous ne choisissez pas de croire que Jésus est vivant, n'est pas vivant, cela ne signifie pas que ce n'est pas vrai. Donc, on est concerné. Acte chapitre 17, verset 31, la fin de la prédication de l'apôtre Paul à Athènes. Qu'est-ce qu'il dit? Il a fixé un jour, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Il est Seigneur. Alors si Jésus-Christ est Seigneur, que devons-nous faire par rapport à ça? Alors l'appel de Jésus qui règne, c'est de se soumettre à son règne, de suivre Jésus-Christ à tout prix, parce que après nous allons devoir rendre nos comptes à ce Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous avons un intérêt en tant que disciples de Jésus-Christ de comprendre qu'est-ce que cela signifie de suivre Jésus dans ce domaine de mes richesses. Que je sois jeune, nouveau chrétien, que je sois expérimenté de longue date, c'est bien d'être rappelé par rapport à ce que Jésus demande de nous. Mais c'est aussi pour ceux qui s'interrogent peut-être toujours en ce qui concerne la foi chrétienne, qui sont là en quelque sorte, vous écoutez ce message, vous êtes intéressé, vous êtes peut-être impliqué dans une famille où il y a la foi chrétienne. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce que cela impliquera pour moi de suivre moi personnellement Jésus-Christ? Alors voici 4 pistes sur cette question de Jésus et mon portefeuille. Première piste, la richesse est une bonne chose. La richesse est une bonne chose. Oui, affirmons dès le début que la richesse en soi n'est pas le problème. Nous l'avons lu dans le texte de 1 Timothée. C'est l'amour de l'argent et non pas l'argent lui-même qui pose problème, qui est la racine de tous les maux. Alors, il faut dire que la richesse peut nous procurer de bonnes choses. une belle maison, un bon repas, de beaux vêtements de bonne qualité, une bonne bouteille de vin, une belle voiture, un smartphone performant, une belle télé. Le monde physique est un monde créé, créé par un créateur. Et souvenons-nous que lorsque Dieu avait créé, il disait que ce qu'il avait créé était bon, très bon même. C'est cela que nous voyons dans le verset 2 chapitres avant, dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, verset 4. « Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » L'ascétisme, ou le fait de s'abstenir du monde physique, n'est pas une piste à poursuivre pour le chrétien, comme le précise l'apôtre dans les deux versets qui précèdent celui-ci au chapitre 4. Le salut ne se trouve pas en nous débarrassant de ce monde matériel qui est mauvais en quelque sorte, comme si on arriverait ainsi à la purification de notre âme si on se débarrasse de ce monde physique. Comme ça, on pouvait avoir une juste appréciation des choses spirituelles. Non, ce n'est pas comme ça, selon l'apôtre Paul. Et pourtant, c'est souvent dans le milieu chrétien que nous donnons l'impression que oui, nous devons nous méfier par principe de toute richesse dans ce monde. Il faut penser aux ordres religieux qui demandent un vœu de pauvreté pour y entrer. Mais nous pouvons également penser à la méfiance qu'il peut y avoir dans nos propres milieux protestants et évangéliques par rapport à la richesse. Je trouve qu'il y a souvent entre nous, même dans notre Église, un esprit de jugement par rapport à tout achat effectué par quelqu'un qui décide d'acheter quelque chose plus cher de ce que nous aurions décidé d'acheter à leur place. Comme si vous voulez, c'est plus sain d'acheter vos courses à Aldi ou à Makro plutôt qu'à Deleuze ou chez Rob ici à Woluwe-Saint-Lambert. Ou si c'est mieux en soi de rouler en Renault plutôt qu'en Ferrari. Comme si nous devons justifier toute dépense devant nos frères et sœurs. J'avais une amie, j'ai toujours cette amie, où chaque fois que nous avons remarqué qu'elle avait quelque chose de nouveau, un nouveau manteau ou un nouveau sac à main ou autre chose, elle avait tendance tout de suite de répondre comme ceci. Ah oui, vous savez, oui, on me l'a offert ce sac. Ou c'était un cadeau ce manteau, vous savez. Ou je l'ai eu à un très bon prix sur eBay. C'était dans les soldes. Et ainsi de suite. Chaque fois, pour dire qu'elle craignait le jugement qui allait suivre si on savait qu'elle avait dépensé une telle somme pour elle-même. Parfois, dans notre milieu, nous sommes soucieux de ne pas dire à un tel ou un tel que nous avons pris des vacances quelque part. Car on ne veut pas qu'ils disent « Ah, je me demande combien ils ont dépensé pour cela. » Il existe également, je pense, une attitude que si nous soutenons un missionnaire quelque part, c'est comme si on impose à ce missionnaire leur propre vœu de pauvreté. Car sinon, en tant que serviteur de Dieu, ils risquent de tomber dans le piège de vouloir s'enrichir. Donc on leur donne le strict minimum. Comme si nous avons le droit d'avoir l'iPhone 12, mais eux, ils doivent se contenter toujours d'un vieux Nokia. Non, l'iPhone 12 peut être également utile pour un missionnaire. Des vacances aux États-Unis ne sont pas mauvaises en tant que telles. L'achat d'un nouveau sac à main Louis Vuitton n'est pas un péché. Les courses chez Rob peuvent se faire, car tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc, faisons attention, chers amis, à ne pas donner l'impression qu'un ascétisme évangélique est la voie de la sainteté. Même l'apôtre Paul pouvait dire qu'il a appris à vivre dans la pauvreté, on aime bien cette partie du verset, mais aussi, il a dit, dans l'abondance. Et ce n'était pas mauvais en tant que tel, car la richesse est une bonne chose en soi. Mais, deuxième chose alors, la richesse est une chose dangereuse. La richesse est une chose dangereuse. Alors maintenant, nous allons vers le texte de 1 Timothée 6 que Noah avait lu pour nous tantôt. Verset 9, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Le piège de l'argent, c'est que cela semble pouvoir fournir une stabilité, un pouvoir d'achat, une sécurité, un bonheur même. Et nous sommes vite, en tant qu'êtres humains, dupés par ce pouvoir que l'argent il semble avoir. Car si le monde physique est bon, créé par Dieu, l'homme n'a pas été créé pour trouver son contentement dans ce monde créé, mais dans le créateur de ce monde créé. Le cœur de l'homme, nous dit Jérémie, est tortueux par-dessus de tout. Il est méchant. Et du coup, oui, l'homme pense qu'il peut dispenser de son créateur et se focaliser sur sa création. Cela a l'air si bon, cette création, ces richesses, ce monde physique si interpellant. Et du coup, je suis prêt à mettre Dieu de côté pour pouvoir poursuivre cette richesse. C'est le principe, vous savez, derrière tout jeu d'argent. J'ai lu cette semaine dans la presse britannique que la patronne de Bet 365, c'est une société britannique de jeux en ligne, comme peut-être ici, j'espère que vous ne connaissez pas ces noms, mais si on regarde le foot, on ne peut pas éviter de voir ces publicités. Comme Bwin, Unibet ou Bet777, il y en a tellement, n'est-ce pas? Alors, la patronne de Bet 365 en Grande-Bretagne s'appelle Denise Coates. Et elle touchait en 2020 le salaire le plus élevé de Grande-Bretagne. 421 millions de livres sterling. L'article que j'ai lu s'intitulait « Une femme riche peut-elle entrer dans le royaume des cieux ?» Cela faisait allusion, bien entendu, au propos de Jésus. On va y arriver. Et l'article posait deux questions pour cette Madame Coates. À tout point de vue, au Royaume-Uni, c'est une dame maintenant très respectée. Elle est d'ailleurs propriétaire d'une équipe de foot dans la Premier League. Ou peut-être dans la Ligue 1, je ne sais plus. Alors voici les deux questions. Qu'est-ce que cela vous fait d'apprendre qu'on peut gagner des milliards en nourrissant la dépendance des pauvres? Est-ce que cela vous inquiète de savoir que le nombre de joueurs accros ou pathologiques a quintuplé alors que les bénéfices de Bet 365 ont grimpé en flèche? Et que le nombre de tentatives de suicide a quadruplé. Deux questions pertinentes. Tout jeu de paris joue sur l'idolâtrie du cœur humain, le désir de s'enrichir, la racine de tous les maux. Mais en ce faisant, on met Dieu et les autres de côté, souvent notre famille, pour ceux qui sont accros au jeu d'argent, n'est-ce pas? Le désir de s'enrichir devient l'objectif numéro uno pour beaucoup d'entre nous. Et comme toute idole, Les richesses qui viennent de Dieu ne sont pas désignées par Dieu de nous satisfaire. Le contentement vient du Créateur. On a entendu ça dans cette histoire que Joël nous a racontée, de Hans, n'est-ce pas? Ça vient de notre Créateur et non pas de la création. Rappelons-nous de ce que Jésus disait par rapport à un homme qui amassait beaucoup de biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, disait-il, même s'il est dans l'abondance. Car cet homme cherchait encore plus de sécurité, il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait. Et Jésus disait que Dieu lui dirait, « Homme dépourvu de bon sens, idiot si vous voulez, cette nuit, de manière inattendue, son âme sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il ? » La conclusion de Jésus, voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et voici quelques proverbes qui vont un peu dans ce même sens de ces propos de Jésus, pour démontrer certaines choses, à quel point la richesse est trompeur, si vous voulez. Verset 28 de Proverbes, chapitre 11, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. » Oui, les richesses sont trompeuses, car elles nous invitent à nous confier en elles et non pas en Dieu. Elles nous invitent à croire que nous sommes à l'abri du danger si nous avons suffisamment de richesses. Mais les richesses sont en fait très précaires. Proverbe 23, versets 4 et 5. « Ne te fatigue pas à acquérir la richesse. » N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà, disparue. En effet, la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. Non, l'homme riche est souvent aveugle à cette réalité. D'à quel point les richesses sont précaires? Il se croit à l'abri du danger. Proverbe 18, verset 11. La fortune du riche est une ville forte. Dans son imagination, c'est une muraille qui est hors d'atteinte. Sois riche, c'est bon, en sécurité, mais c'est faux. Non seulement une telle personne est aveugle par rapport à ce danger, mais il est aveugle de jusqu'à quel point il se croit être quelqu'un parce qu'il est riche. Proverbe 28, verset 11. L'homme riche se prend pour un sage, mais le pauvre qui est intelligent le démasque. Donc, dès que nous avons affaire à quelqu'un qui aime que les autres le considèrent comme étant quelqu'un parce qu'il est riche, une telle personne est pitoyable selon les Écritures. Même les pauvres le constatent et voient à quel point une telle personne est ridicule. Si vous voulez, c'est un peu comme un jeune qui veut se vanter de sa nouvelle marque à la mode qu'il porte en pensant qu'ainsi il peut appartenir au petit club dans lequel il se trouve. Tous ceux en dehors de ce club le regardent et disent « à quel point tu es ridiculement grand ». Mais les adultes font la même chose par rapport à leur richesse. Dès qu'on pense que nous sommes quelqu'un, quand nous possédons quelque chose, nous avons besoin de Proverbes, chapitre 22, verset 2. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. Et c'est pour cela, je pense, que Jésus ne mâche pas ses mots à un jeune homme riche qui s'approchait de lui pour lui demander, Marc chapitre 10, à partir du verset 17, ce que lui, ce jeune homme riche, devait faire pour hériter la vie éternelle. C'est une histoire bien connue, cette histoire. Jésus, qui aimait cet homme, nous dit le texte, sincère cet homme, juste à beaucoup d'égards. Jésus lui disait, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Comment avait-il réagi ce jeune homme à ce moment-là, verset 22? Mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il ne voulait pas, sous principe, rompre avec son argent, avec son attachement à son argent, à ses richesses. Mais il faut le faire. Qu'est-ce que j'aime le plus, si je dois me déclarer là-dessus, Jésus-Christ ou mes richesses? Et beaucoup d'entre nous demandent à ce moment-là, mais n'est-ce pas possible d'avoir les deux? Jésus-Christ et la richesse, ce serait parfait, n'est-ce pas? Non. Pour suivre Jésus-Christ, il faut rompre définitivement avec notre amour pour l'argent. Il faut donner tout notre argent à Dieu. Et combien c'est difficile. Que dit-il Jésus, verset 25? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela, les amis, signifie que c'est impossible. Vous comprenez bien cette illustration? Ce n'est pas que c'est difficile, c'est que c'est impossible. Impossible. Là, moi, je ne suis pas un chameau. Ça, ce n'est pas le trou de l'aiguille. Mais je n'y arrive pas. Vous le savez. C'est impossible. C'est impossible. Bah, attendez. Je pense que nous avons dit, premier point, que la richesse en soi n'est pas une mauvaise chose. Vous avez dit, prédicateur, qu'un vœu de pauvreté n'est pas forcément une bonne chose à faire. Alors comment mettre ces deux aspects ensemble? Bah, sur le principe, oui, et pas juste sur le principe, pour du vrai, il faut se détacher de l'amour de notre argent. Il faut comprendre que ce qui vient de Dieu, notre richesse, appartient à Dieu. On ne peut pas suivre Jésus en disant que je lui donne 10% de ce que j'ai. Non, corps et âme, le croyant en Jésus-Christ se donne à Jésus-Christ à 100%. Je meurs à moi-même, nous dit Jésus, Marc chapitre 8. Je meurs donc, oui, à mes richesses. Je donne tout pour le Seigneur. Et cela est difficile. Si je suis riche et croyant, je dois comprendre que cette richesse que je possède n'est pas en principe la mienne. Telle est l'emprise que les idoles ont sur notre cœur, surtout cette idole d'argent, que pour un riche de lâcher ses richesses, c'est impossible. C'était dur pour ce jeune homme. C'est dur pour tout homme. Jésus dit au verset 27, n'est-ce pas, lorsqu'il parle de ce jeune homme riche, que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Oui, notre Dieu est capable d'œuvrer dans le cœur de l'homme. Et c'est ça ce qu'il nous faut pour pouvoir gérer nos richesses. Troisième constat, alors, la richesse de Dieu est généreuse. Elle nous sauve. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, est un excellent verset pour résumer ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, en parlant des richesses. Verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Oui, vous voyez dans ce verset que le Seigneur, en tant que tel, il est riche. Ses biens immobiliers excèdent tout autre portefeuille qu'il soit. J'espère que vous savez cela. Le Grand Canyon, l'océan Indien, l'île Maurice, la planète Mars, et ainsi de suite. Oui, il était riche. toute la création entière lui appartient. Tout a été fait par lui et pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ existe depuis l'éternité dans la gloire et dans la splendeur du ciel auprès du Père. Lui, il est riche, sans bornes. Et pour vous, nous dit l'apôtre Paul, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Lui qui habite une lumière inaccessible, il est devenu homme. Il s'est humilié, il est venu en tant que serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la croix, là où il subissait l'opprobre, la honte, la moquerie des hommes pour porter nos péchés. Pourquoi ? Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Cela parle de sa grâce généreuse à notre égard. Son œuvre à la croix, où celui qui a toujours connu cette relation parfaite avec son Père, a pris sur lui le châtiment que nos péchés ont mérité, pour que nous soyons donc sauvés de cette colère à venir. Oui, sa pauvreté nous a enrichis. C'est le fondement, ça, de la foi chrétienne, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque croyant en Christ croit à cela. Voici donc une générosité qui nous dépasse, une richesse déployée pour le bien des autres. Voilà le contraste avec Proverbes, chapitre 11, verset 4, qui dit « Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien ». Elle ne peut pas servir à quelque chose à ce moment-là. Rappelons-nous des commandements les plus importants selon Jésus. Deux chapitres plus tard, l'évangile de Marc, chapitre 12. Que dit Jésus ? Aimez le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ensuite, aimez ton prochain comme toi-même. Les deux premiers commandements, plus grands commandements. Et donc, nous ne pouvons pas, à la fin de nos jours, nous tenir devant le roi des rois, qui nous a dotés de tout bien matériel, et lui dit, lorsqu'il nous met face à nos manquements, à nos péchés, notre désobéissance, par rapport à ces deux commandements les plus importants, nous ne pouvons pas lui dire, « Mais tu sais quoi, Jésus ? J'avais un sac Louis Vuitton. Hein? J'avais un appartement à New York. » J'avais un iPhone 12. Tout cela vient de lui. Quel homme pitoyable qui pense pouvoir raisonner ainsi. Donc, comme continue Proverbes, chapitre 11, verset 4, c'est la justice qui délivre de la mort. Ultimement, il nous faut une justice qui ne vient pas de nous, les amis, mais de Jésus-Christ lui-même. Lui, le juste, qui est mort pour nous, les injustes, afin de nous amener à Dieu. Alors, comprendre cela, c'est de pouvoir être détaché du poids, de l'emprise de nos propres biens. C'est de pouvoir dire, je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je te fais confiance par rapport à mon avenir. Je mets à ta disposition tout ce que j'ai. Mon corps, mon écran, mon portefeuille, tout ce que j'ai. Sers-toi de moi. Nous allons chanter à la fin de cette prédication, « Ô céleste Père, nous chantons que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre. » Oui, dans cette partie de ma vie encore sur terre, que soit faite ta volonté par rapport à mon portefeuille. Oui. Nous voulons dire cela parce que, quatrième et dernière chose à remarquer, la richesse de Dieu nous transforme et nous rend généreux. Généreux. 1 Timothée 6, là que nous avons lu, verset 17, dans ce texte, Paul s'adresse aux chrétiens qui ont des moyens. Et donc, pour ceux qui se trouvent en Europe occidentale aujourd'hui, oui, il s'adresse à nous. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Que leur confiance soit en Dieu, dit-il. Qui sait ce dont nous avons besoin, ce Dieu, ce Créateur, ce Rédempteur qui nous aime, qui veille sur nous, qui va nous garder, nous l'avons chanté, qui pourvoit à nos besoins de tous les jours. Le croyant donc qui est riche, sait qu'à un jour ou à un autre, le Seigneur peut renverser sa situation. Et si cela arrive, alors comme Paul lui-même le disait au verset 8 de ce même chapitre, son attitude ne change pas. Si donc il dit « nous avons de la nourriture et des vêtements », cela nous suffira. Je n'ai pas besoin de plus, même si de temps à autre, je peux jouir de plus. Dans pas de crise, si je perds ce qui se trouve dans mon compte en banque, si les marchés chutent, si même je perds mon travail, je ne dis pas ça à la légère, parce que bien entendu, c'est un moment difficile. Mais notre Dieu sait ce qu'il fait. Et d'ici là, si Dieu permet que je continue à avoir des moyens considérables, alors que je ne dépends pas de ces moyens considérables. Verset 18, ordonne-le de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, et de se montrer généreux, prêt à partager. Oui, un chrétien qui a des moyens dans ce monde est exhorté à les utiliser, d'être riche en belles œuvres. Un tel croyant donc sera généreux envers Dieu. Il soutiendra les œuvres qui prônent la croissance du royaume de Dieu. Il sera également conscient des besoins du peuple de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, pour que l'Église puisse pouvoir au ministre de cette Église, pour que le ministère de l'Église aille de l'avant. Oui, un tel croyant sera généreux envers des frères et des sœurs dans le besoin, envers aussi son prochain, en fonction bien entendu de la proximité qu'il a avec l'une ou l'autre personne. Certes, une telle personne sera sage. Elle ne sera pas forcément menée à soutenir tout et n'importe quoi, sans réfléchir, sans faire attention à ne pas encourager les paresseux dans cette vie à continuer à être paresseux. Non, une telle personne n'aura pas envie d'encourager ceux qui devraient prendre soin de leur propre famille et de leur église, de ne pas assumer cette responsabilité. C'est normal qu'ils réfléchissent à cela. Mais une telle personne sera généreuse elle-même. Il sera sans doute soucieux, oui, de ne pas gaspiller son argent inutilement. Il n'aura pas besoin de tout et n'importe quoi. Il n'aura pas forcément besoin du tout dernier modèle des choses qui existent. Il cherchera, oui, à vivre modestement selon le contexte dans lequel il se trouve. Il ne courra pas après la richesse. Oui, un chrétien avec des moyens limités ne fera pas des très grandes dépenses sur des objets de luxe et ensuite demander de l'aide de la part de ses frères et sœurs pour pouvoir subvenir à ses besoins de tous les jours. Non. Cela ne sera pas cohérent. Mais toute personne aimée par Jésus-Christ et sa générosité sera de retour généreux. Et n'oublions pas que la générosité, ultimement, se définit non pas en fonction du montant qu'on donne, mais en fonction du montant qu'on ne donne pas. On se souvient, j'espère, de la pauvre veuve Luc chapitre 21, qui mettait rien que deux petites pièces dans le tronc au temple, au même moment que Jésus voyait des riches faire d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il disait? Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Pourquoi? Car elle donnait de manière sacrificielle. C'est pour ça que Paul recommande aux croyants, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 11, de donner chacun selon leurs moyens. Mais de faire ça de manière sacrificielle, de manière généreuse. Sachez-le, dit l'apôtre, au chapitre suivant, chapitre 9, 2 Corinthiens, verset 6, « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime. Aime qui ? Celui qui donne avec joie. Croyant, est-ce que vous donnez avec joie ? Bah, sinon, vous avez du progrès à faire. De pouvoir ne pas être attaché à ce que vous avez, mais de voir à quel point c'est une bénédiction de donner plutôt que de recevoir. Vous voyez ici dans ces versets, il n'y a pas de loi, on n'impose pas. Il n'y a aucune place pour l'Église d'imposer ce que vous devez donner. Non, si la règle de l'Ancien Testament, c'était la dîme, cela préfigure, pointe le doigt vers ce principe de la générosité que nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, qui explose, qui permet qu'on peut donner beaucoup plus que 10% si nous avons de tels moyens. J'ai entendu cette semaine des statistiques de la Banque nationale belge qui ont publié des chiffres qui montraient qu'en fin février de cette année-ci, il y a un montant accumulé total de plus de 300 milliards d'euros sur les comptes courants en Belgique. Et presque le même montant sur les comptes d'épargne réglementés. Ça fait 600 milliards d'euros sur les comptes en banque des Belges. En moyenne, pour 9 millions d'habitants adultes, plus ou moins, ça fait environ alors, 60 000 euros par adulte dans nos comptes en banque. On ne parle pas d'autres biens ici, on ne parle pas de notre salaire mensuel, on ne parle pas de nos investissements. 60 000 euros en moyenne pour chaque adulte en Belgique, dans notre compte en banque. Avons-nous besoin d'une telle somme? Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit par rapport à ce que vous avez dans votre compte en banque. Mais c'est à Jésus-Christ de nous demander, est-ce que vous êtes attaché à votre argent? Ou est-ce que votre argent m'appartient? C'est ça la question. Pas moi, vous comprenez bien, appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui parlait juste dans ce cas de figure. À vous de creuser ces questions-là. Ce que nous pouvons dire en tant qu'Église, c'est à quel point nous étions bénis et dans la joie de voir la générosité au sein de l'Église lorsque nous avons lancé le projet bâtiment. Prions, Seigneur, que ça soit un indice d'une générosité, d'une œuvre authentique du Seigneur au sein de cette Église, pour que oui, nous soyons prêts à être généreux comme Christ nous a été généreux. Je termine juste avec l'illustration de John Piper. Je sais que beaucoup d'entre nous ont bénéficié des livres de John Piper. Je pense qu'il a écrit plus de 50 œuvres. Le truc qu'il a fait, le Christ et le coronavirus, est sorti récemment. Il vient de sortir un autre livre sur la Providence. Il est connu et ses écrits ont servi le royaume de Dieu. Mais en tant qu'auteur bien connu dans le milieu américain, il commençait à recevoir des royalties, donc ce que les droits d'auteur permettent qu'il reçoive pour ses livres, qui commençait à être un montant très considérable. Vous savez la décision qu'il avait prise ? Il avait pris la décision de se garder de l'amour de l'argent. Il a dit ce qu'il recevait en tant que pasteur de l'Église, en tant que maintenant membre du staff de Desiring God, c'est la société pour laquelle il travaille maintenant, il gagnait assez. Il n'avait pas besoin de plus. Et il se méfiait de tout d'un coup son compte en banque. Il grandissait. Et donc, avec d'autres, il a créé une fondation. Et donc, c'est le CA de cette fondation dont il fait partie, mais avec 6 autres personnes, qui décident ce qu'il faut faire avec cet argent pour encourager le ministère dans le monde entier. Quel est le principe derrière tout cela? Alors, je termine toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. John Piper connaît cette vérité. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Que cela, chers frères et sœurs, soit le cas pour chacun d'entre nous. Amen.